Bonjour et bienvenue sur le podcast de Contournement sur le no-code. Je suis Alexis, un des cofondateurs de Contournement, et pour ce nouvel épisode, j'ai pu rencontrer Myriam Benmouaz, qui a cofondé l'intendance.co. C'est un service d'épicerie en vrac sur internet avec des livraisons sans émissions de carbone. Super beau projet, et dont la mise en œuvre, vous vous en doutez, s'est appuyée sur plein d'outils no-code. Alors on va aborder toute cette partie en toute franchise avec Myriam, qui a eu l'occasion vraiment d'approfondir le sujet du no-code avec son projet, et qui n'hésite pas aussi à soulever les limites qu'elle a pu rencontrer, par exemple avec Webflow, l'outil qui permet de faire tourner leur site de e-commerce. C'est une discussion hyper intéressante, et ça me permet de continuer sur la série des entrepreneurs et des entrepreneuses qui se lancent sans équipe technique, et qui arrivent à, malgré tout, bootstrapper de super projets. Profitez bien de la conversation et venez, pourquoi pas, en discuter avec nous ensuite sur notre Slack. Allez, à bientôt. Je suis à Station F avec Myriam qui a fondé, cofondé. Quand même d'autres gens dans l'équipe, cofondé l'intendance. Donc tu vas nous expliquer tout ce que c'est, tout ce projet. Merci pour ton temps. Tu as rencontré mon associé Erwan il n'y a pas très longtemps et tu es complètement emballé par ce que vous faisiez et comment vous le faisiez. Donc voilà, il y a différents niveaux. Donc on va parler de nos codes évidemment, un petit peu avec tout ça. Et puis de votre activité, ton parcours, toi, d'entrepreneuse, toute cette aventure et tous ces outils fabuleux qui t'ont aidé à monter ce projet.
Super. Ben, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc oui, en effet, j'ai cofondé l'intendance avec Noélie Demacht, qui est mon associée. J'ai un parcours un peu classique. J'ai fait une classe préparatoire et puis une école de commerce. Mais vraiment, dès le départ, j'étais un peu fascinée par la capacité des entreprises à bouleverser des modes de consommation. Et ça m'a toujours un peu intriguée, passionnée. Suite à vraiment une erreur de parcours, je me suis retrouvée en audit. Ça n'a pas du tout marché. J'ai démissionné au bout de 2 mois. Et j'ai travaillé en capital risque pour vraiment me confronter à plein d'entrepreneurs, voir plein de business models, un peu analyser tout ça et vraiment prendre le pouls un peu de l'économie, un peu du monde réel. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et suite à ça, je voulais un peu construire mes différentes skills pour pouvoir être un peu autonome le jour où je me lancerai. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais décidé dès le départ. J'ai travaillé ensuite chez Rocket Internet. J'ai fait de la business intelligence, donc un peu des requêtes SQL. Et c'était un peu le début pour moi de la découverte. Et ce qui a fait qu'après, sur un peu mes temps morts, j'essayais un peu de bidouiller et d'apprendre un petit peu les bases du Python, du JavaScript, du SQL évidemment, etc.
Qu'est-ce que tu faisais chez Rocket Internet?
De business intelligence et du CRM management.
Okay. Donc en fait, et sur quel projet?
C'était un projet qui est nécessairement mort donc aujourd'hui, mais okay. C'était un équivalent marketplace à destination de l'Afrique.
D'accord, ok. Ouais, je pourrais être un peu fasciné, enfin une fascination à moitié malsaine pour Rocket Internet. Je trouve que c'est c'est assez incroyable l'exécution qu'ils ont. Enfin, tu vois, j'avais croisé quand ils avaient lancé une marketplace en Thaïlande. Genre les mecs, ils ont débarqué à 30 et ils ont monté une marketplace. Enfin,
ouais, ça peut être monstrueux.
C'est assez... après, je trouve ça hyper décevant. Enfin, le côté, c'est juste des clones et c'est vraiment une stratégie...
Non, mais c'est formateur, mais après, il y a copier intelligemment et parfois, c'est très pertinent.
C'est là où on voit que l'exécution fait tout, quoi.
Ouais, absolument. Et donc, ça, c'était ça a duré 6 mois, mais bon, j'ai quand même beaucoup appris. Et puis suite à ça, j'ai travaillé en publicité programmatique, donc en tant que customer success. Et ce qui est super chouette en tant que customer success, c'est qu'à la fois, tu es un peu salesy et tu comprends vraiment l'enjeu et comment tu peux vendre aux clients et les vrais enjeux business et produit, donc courrier transmission entre les deux. Et tu vois exactement pourquoi le produit n'a pas le temps de faire les choses que tu as vendu éventuellement aux clients ou les besoins clients et comment c'est pertinent de les remonter avec les produits. Et j'ai trouvé que ça a duré 3 ans, c'était super chouette. Et à côté de ça, je commençais un petit peu à m'intéresser à la blockchain, donc j'ai aussi travaillé rapidement sur un petit projet, mais vraiment on the side, mais j'ai vraiment dévoré très attentivement tout ce qui se passait et je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe.
C'était un premier side project, quoi.
Ouais, exactement, c'était un premier side project.
Et c'est ça qui t'a donné le goût d'entreprendre, ou qu'est-ce qui...
J'avais déjà l'envie
d'entreprendre.
J'avais déjà l'envie d'entreprendre et j'avais déjà à la fois l'envie de bouleverser des modes de consommation par une innovation d'usage. C'était okay. quelque chose qui vraiment qui m'intéressait dès le départ. Et après, j'attendais juste le moment de me lancer propice où en fait j'aurais pas renouveler des titres de séjour parce que c'était typiquement quelque chose qui m'empêchait de lancer ma boîte plus tôt. Mmh. Et le jour où ça s'était fait, du coup, j'ai un peu pris un peu de moment de recul et je me suis dit, qu'est-ce qui t'intéresse fondamentalement dans la vie? Et moi, j'avais toujours été un peu consciente de nos modes de consommation. Un peu anti-gaspillage, mais un peu nazi de l'anti-gaspillage. Mmh. Et puis un petit déclic aussi sur l'aspect chimique. J'adore mélanger des trucs et un peu faire mes huiles essentielles à ma sauce.
Ouais. Est-ce que tu fais ta lessive, ton dentifrice?
Ouais, voilà, je faisais des trucs comme ça. Enfin, quand j'étais petite, je mélangeais tout dans ma salle de bain et après, je faisais essayer aux copines. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pris un moment de recul. J'ai essayé de voir ce qui me fascinait, tout ce qui était food tech, mais vraiment innovation sur comment on peut faire pour être 15 milliards et ne pas faire l'autruche et que tout le monde puisse avoir un accès, des apports protéiniques décents sans qu'on utilise 3 terres au bout du 31 août. Je trouve ça vraiment fascinant. Mais bon, pour en arriver là, finalement, il y a quand même un pas. Et déjà, de réaliser que le plastique, c'est pas biodégradable, qu'on en produit 300 millions de tonnes par an et qu'on recycle très peu et qu'il n'y a que 5% du plastique qui est recyclé, le reste, c'est soit enfoui. Donc ça fait finalement une couche qu'on appelle le plastique gloméra. Quand on fera des carottes dans 50 ans, ce sera un peu l'héritage qu'on aura laissé caler cette période. Sinon, c'est incinéré, mais on ne maîtrise pas trop les gaz qui s'en échappent.
Ouais.
Mais vraiment cette claque de réaliser que c'est pas biodégradable, que ça finit en micro-truc qui va colorer les planctons quand on fait des radios de la mer, je me suis dit non, c'est impossible. En plus, personne ne semble réaliser qu'on va droit dans le mur. Et donc en creusant, comme je disais, en fait, j'ai voulu rassurer mon cerveau droit et j'ai un peu scrappé Who Got Funded depuis 2012 pour me dire bon, comment va l'économie. J'ai un peu dressé les tendances actuelle pour voir si finalement me lancer là-dedans, c'était juste un projet qui me tenait à cœur ou si l'économie allait vraiment en ce sens.
Et quand tu as fait ça, enfin justement quand tu as scrappé la base de données, après tu as fait des stats dessus, justement,
oui,
tu as analysé, l'idée c'était d'analyser vraiment les tendances et quel type de boîte recevait
le plus
de financement.
Oui, absolument. Okay. J'ai fait ça un peu comme des devoirs, non pas que je considère que les gens qui réussissent à lever de l'argent font des choses qui marchent ou des choses qui sont utiles, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie qui...
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un projet dans le type de boîte qui lève le plus.
Ah non, absolument.
Par contre, de confirmer que toi, ton intuition, ce que tu veux faire, correspond à une tendance, c'est intéressant, effectivement.
Absolument. Mais ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que c'était un phénomène grandissant. Les entreprises qui faisaient des crevettes, du poulet à partir de cellules qui sont lab-grown cells. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et ça m'a surtout permis de mettre le doigt sur le phénomène zéro waste, que moi, j'avais un peu lu comme ça, mais et de me rendre compte que c'était quelque chose de grandissant. Mais en effet, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire les choses en fonction de ce que les autres font.
Non, mais par contre, je trouve que c'est très, très malin de se rassurer en regardant que ce qu'on a envie de faire correspond quand même, qu'il y a des chances que ça intéresse des fonds, etc. quoi. Enfin, ou d'où, parce que ça, c'est une tendance qui est...
Qui peut être...
porteuse, on va dire.
Ouais, j'ai essayé. Et donc, du coup, j'ai réalisé que c'était ça. Ensuite, j'ai vraiment lu un numéro du 1 Hebdo de Eric Fotorino sur le axé sur le plastique qui a vraiment fait la bascule où tout était étayé. Enfin, c'est les spécialistes qui donnaient les chiffres et je me dis ça suffit. Ok, c'est ça que je veux faire. Et ensuite, en creusant, donc j'ai réalisé qu'en effet, le vrac, c'était quelque chose qui intéressait les Français, que 37% des Français avaient déjà consommé en vrac en 2018. Il s'avère qu'il y en a 47% en 2019, donc c'est vraiment quelque chose qui est grandissant. En plus, c'est pas un truc de bobo, parce que à qualité égale, ça coûte 15 à 25% moins cher que des produits pré-emballés, donc ça fait du sens. Et j'ai décidé de tester le marché aussi en faisant un Wix. Là, du coup, c'est un peu le truc un peu en mode je vais essayer de tester le truc et un site et faire un starter kit du zéro déchet. Et ça, c'était en décembre de 2018.
D'accord, mais est-ce que tu avais déjà l'idée derrière de ce que tu voulais faire?
Ouais. Non, ouais, j'avais une petite idée. Premier site 100% zéro plastique, faire ses courses avec un système de consigne.
D'accord, donc ça, le concept était là, mais pour le tester Commencer à créer peut-être un peu d'émulation autour du sujet. Tu as publié du contenu sur un site, quoi.
Absolument. Okay. J'ai fait ça. Et puis, j'ai fait des marchés. Et je suis allée à la rencontre des clients et j'ai essayé de leur vendre des starter kits à 25€ avec des brosses à dents en bambou, des cotons-tiges en bambou, des sirophanes, donc qui est un truc qui est très à la mode dans les pays nordiques et anglo-saxons, qui est du coton biologique avec de la cire bio dessus, qui conserve très bien les aliments et qui permet de se passer de film plastique, qui est vraiment une calamité et qui n'est pas du tout biodégradable, enfin, ça c'est l'enfer. Et il y avait deux pochons à vrac, etc. Et vraiment, pour moi, c'était une manière d'aller au contact des clients et de leur dire, si jamais il existait un site pour faire tes courses en plastique, est-ce que tu serais partant et à quel prix et est-ce que tu es conscient de ce problème et est-ce que tu es prêt vraiment à le faire ou pas? Bon, bien sûr, tout le monde disait oui. Mais bon, ça m'a permis de vendre certains kits. J'ai fait un bon chiffre d'affaires sur moi là et d'acter le fait que j'avais envie d'avancer là.
Le fait de les vendre, ça valide quand même une idée. Parce que le fait effectivement de poser la question que les gens disent oui, ça, c'est pas, ça suffit pas.
Ouais.
Par contre, les faire payer.
Ouais. Et en plus, ils les avaient pas parce que j'avais pas reçu mes stocks. Du coup, j'ai vraiment tout reçu le 23 décembre.
Ah, okay.
Et je me suis tapé une tournée de l'enfer le jour même. Mais en effet, oui, de payer pour quelque chose, bien sûr, c'est quelque chose qui caractérise vraiment un engagement. Et enfin, ça, c'était super chouette. Et après, sur le modèle économique, j'ai beaucoup hésité à plutôt faire un peu un Instacart, enfin, aller faire les courses pour les gens dans des différents magasins de vrac. Mais bon, je me suis dit, c'est pas du tout tenable de faire ça, et que surtout il y a ce besoin des consommateurs de comprendre l'histoire derrière, de savoir d'où viennent les produits, et moi j'avais aussi cette appétence pour d'aller rencontrer des producteurs, de raconter leur histoire et de voir comment les choses étaient faites, parce qu'au-delà de ça je fais ce projet vraiment pour m'éclater, et c'est une partie du job qui m'éclate. Quand je discute avec une productrice dans le sud qui m'explique qu'elle a réinventé toute la filière du fruit séché en France qui n'existait pas, et que je vois des gens qui achètent des bananes séchées, des mangues séchées, alors qu'on fait des poires séchées, du cuir de figues séchées, c'est absurde.
Super, ça, t'as l'occasion du coup de les mettre en avant au travers de ton projet.
Absolument.
C'est ça qui est génial, quoi.
Et ensuite, donc, j'ai eu la chance de rencontrer Noélie, qui est ma cofondatrice, complètement par hasard, sur un groupe Facebook dédié à l'économie circulaire. Et là, on était complètement alignés sur le projet et on a décidé de démarrer ensemble le lendemain, quoi, de notre rencontre. Mmh. Et vraiment, on a eu énormément de chance
sur la base de ton idée.
Non, elle avait la même idée.
Elle avait
la même idée, avec exactement la même manière d'y arriver. On était complètement alignés sur ce qu'on voulait, la temporalité d'exécution et pourquoi on le faisait.
Ok. Et ce qui était chouette, c'est que toi, tu avais déjà du coup commencé et validé quand même certaines
choses. Oui, mais
choses.
Finalement, en fait, j'avais validé certaines choses, en effet, c'était bien, mais il y avait vraiment toute ce qu'on a construit après, et sans commune mesure, aussi après avec ce que j'avais fait avant. Mmh. Et là, on s'est dit, bon, il faut rassurer les gens, il faut leur donner envie, il faut les faire succomber plutôt que les faire culpabiliser de ne pas consommer, de consommer avec du plastique. Mmh. Et donc, il faut qu'on construise une image de marque assez belle, assez forte, et une expérience un peu digitale à la hauteur de l'enjeu. Et qu'il soit un peu absurde qu'aujourd'hui, quand tu veux consommer du bio, quand tu veux faire quelque chose d'un peu ESS, t'es quelque chose qui ne serait pas forcément beau avec les mêmes codes couleurs. Innovons et remettons la consigne au goût du jour. Donc on a passé 5 mois à travailler là-dessus et à chercher des producteurs et à chercher justement comment on allait faire pour mettre en place une logistique. Donc c'est là qu'on a expérimenté tous les CMS possibles et imaginables.
Avant d'entrer trop dans la technique, juste déjà, donc vraiment juste d'expliquer clairement ce que vous faites, ce que c'est l'intendance.
Alors, on est le premier site 100% zéro plastique, avec des produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien, qui sont gourmands, et avec un système de consigne simplifié. Donc en fait, c'est simple, on fait ses courses sur l'intendance avec des quantités qu'on désire, et puis nous, on les prépare dans un ESAT, qui est un établissement qui réinsère des personnes en situation de handicap. On livre sans émission carbone à Paris et dans quelques régions, à Issy, Boulogne, Vincennes, et plus à venir, en vélo et en scooter électrique. La quantité désirée, tous les produits secs sont dans des papiers craft, et tous les éléments liquides ou humides sont dans des bocaux, flacons, bouteilles en verre qu'on peut garder sans frais additionnels, ou si on décide de les rendre, on récupère 1€ par contenant rendu.
Ok, c'est super.
Ben, merci.
Ouais, non, c'est super. Non, mais c'est, en plus, je trouve que c'est un vrai sujet. Moi, j'avoue, je suis assez sensible à l'écologie, etc. Mais j'ai du mal à franchir un peu le pas du vrac. Honnêtement, je reconnais que je suis entouré de gens qui sont... Bah, pour une raison simple, c'est que j'ai la flemme. Malheureusement, ouais, j'en ai honte, mais je l'avoue.
Ouais.
Je l'avoue.
Ouais, ça va.
C'est parce que je pense pas forcément, quand je vais faire mes courses, à amener mes contenants, des choses comme ça. Donc,
et si t'as pas le temps au quotidien d'aller faire tous les tours des magasins juste pour te passer de plastique.
Ouais,
bah, du coup, nous, on répond exactement à ça. Les freins qu'on a identifiés, c'est trop peu de choix, magasin trop éparse et pas le réflexe le matin de prendre ses contenants. Et même quand t'arrives, tu sais pas trop si t'as le droit de venir avec tes contenants ou pas. Enfin, on sait pas trop.
Ouais, puis moi, je me pose des questions un peu débiles, hein, mais c'est si t'amènes ton contenant, comment tu fais pour peser ? Est-ce que ça pèse le contenant ou pas ? Tu vois, enfin, bon, c'est ce truc un peu irrationnel, mais c'est de la friction, entre guillemets, que t'as pas envie d'avoir dans le magasin parce que ça fait des années qu'on a l'habitude de prendre les trucs tout emballés, passer à la caisse.
Et c'est dingue, en l'espace de deux générations, ça s'est complètement perdu. Alors qu'avant, c'était d'une évidence crue et maintenant, ça nous paraît bizarre, alors que, et bah, du coup, c'est exactement le point auquel on tente de répondre, c'est la simplicité et la praticité. Mmh. Et en proposant un peu des produits que tu te doutes pas trouver en vrac, parce que t'as l'impression que c'est fait que pour acheter des noix et des pois chiches, alors qu'en fait, non, tu trouves des super bons biscuits, tu trouves des super bons risottos à la truffe, à ce que tu veux.
Et puis tous les produits ménagers,
exactement, plein de choses. Qui sont simples et qui sont sans... nous, on propose que des produits bruts, donc du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude.
C'est ça, après il y a la possibilité de faire, tu veux faire toi-même ton dentifrice, bah, tu peux acheter les...
Alors justement là-dessus, pour compléter la proposition de valeur, on a vraiment testé tous les éléments zéro déchet du marché. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a eu quelques déconvenus. Donc on a passé un peu 6 mois avec les cheveux gras à tester tous les shampoings solides, les dentifrices qui s'accumulent, qui prennent un peu les mous. Enfin, c'est vraiment... Et on a vraiment choisi ceux qui fonctionnaient du premier coup et qui n'étaient pas trop disruptifs de ta façon de fonctionner habituellement.
Pour embarquer les gens, faire une transition un peu douce.
Absolument. Bah, finalement, pour initier une révolution, il ne faut pas du tout qu'elle ait l'air d'être une révolution, sinon ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc le shampoing solide mousse et les dentifrices, les pastilles dentifrices qu'on a, elles sont vraiment avec un petit goût mentholé. Voilà, pour compléter là-dessus.
Ok, super. Bah, écoute, je pense que c'est assez clair vraiment sur ce que vous proposez. Et puis on va de toute façon en reparler un peu plus en détail, mais du coup on va prendre un petit peu à l'angle de la technique, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi. Mmh. Et on sait, puisque tu es ici, qu'il y a beaucoup de no-code dans tout ça. Mmh. On a vu que déjà dans l'approche, il y a une approche très lean, etc. Donc ça, c'est chouette. Et puis maintenant, on va discuter un petit peu de la technique. Donc je vais revenir sur le point que tu disais déjà, qui n'est pas vraiment technique, mais tu disais qu'il faut quelque chose de joli. Ça, c'est important. Et c'est vrai que nous, des fois, on a des discours par rapport à cette approche de MVP, on doit aller vite, etc. Des fois, on peut dire, c'est pas grave si c'est pas aussi beau que ça pourrait. Le branding, c'est pas grave.
Ouais.
Nous-mêmes, par exemple, on n'a pas de logo. C'est une image qu'on a trouvée sur Nine Project.
Ouais.
Et tu disais...
Et en fait, moi, je me suis beaucoup posé la question. Et moi, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui tardent à se lancer parce qu'ils ne savent pas forcément coder. Moi, je pense que c'est... pour embarquer les gens dans une expérience et pour être un peu remarquable, tu as besoin de faire quelque chose qui soit beau et auquel tu peux t'identifier parce que ça raconte quelque chose de ce que tu veux faire aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur.
Ouais. Je trouve que c'est très réussi.
Merci.
Du coup, c'est vraiment votre site hyper cool. C'est ça qui a fait tilter d'ailleurs Erwan, mon associé, quand il a vu. Et qui...
Ah, ça, c'est aussi grâce à Webflow. Après, lui, c'est la partie usage et la partie c'est aussi votre idée.
Alors, du coup, donc, tu t'as bossé avec des designers.
Oui, j'ai travaillé avec une super agence qui s'appelle Paperclip. Ils sont vraiment géniaux et ils ont été cruciaux dans l'aboutissement de ce projet.
Et alors, est-ce que c'est eux qui ont suggéré Webflow ?
Ouais.
Puisque votre site est fait avec Webflow, donc il est important de le dire.
Absolument. C'est eux qui m'ont fait découvrir Webflow et qui travaillent avec Webflow depuis assez longtemps et qui sont super forts à ça d'ailleurs. Mais moi, auparavant, donc, j'avais essayé tous les CMS et c'était impossible de concilier les deux. Et puis surtout, j'étais à la recherche vraiment de quelqu'un pour m'accompagner, même dans la proposition de valeur. Et on a fait ce travail ensemble. Et puis eux, comme ils travaillaient très bien avec Webflow, ils m'ont dit tu vas voir, c'est génial. Je suis vraiment ravie d'être tombée là-dessus. Même si j'ai eu quelques déconvenus qui ont impliqué beaucoup de nos codes par la suite.
Ok, alors parlons-en.
Ouais.
Donc ils vous ont mis en place le site, c'est eux qui l'ont développé.
Ouais.
Et vous en servez en tant qu'éditeur. Vous modifiez ou est-ce que vous carrément
on est dans designer et en fait le but puis c'est ce que Thomas expliquait lors d'un précédent podcast parce que je travaille également avec Thomas de Essentiel.
On va revenir dessus.
En fait, nous on n'est pas moi j'aime bien être un peu autonome sur les choses, et on aime bien être assez autonome sur les choses. C'est que une fois qu'on nous donne quelque chose, on essaye de rentrer dedans, et une fois qu'on nous a montré une chose une première fois, dans la mesure du possible, je veux que ce soit in-house. Et
okay, génial, voilà. C'est une super philosophie, hein. Enfin, c'est vraiment le no-code permet ça à mon sens. Donc ils vous ont formé sur Webflow, vous êtes formé?
Ils nous ont formé à la fin, enfin oui.
Ok, et donc puis, maintenant vous êtes autonome.
Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de. Enfin, finalement, il y a tellement d'autres trucs à gérer qu'on n'a pas eu le besoin de. Enfin, le temps de prendre le recul, de dire et si on faisait ça juste pour tester si on savait le faire. Mais je pense que.
Par exemple, si vous voulez, je sais pas, rajouter une bannière sur votre page d'accueil, faire une promo, un truc, ou juste tester.
Non, justement, parce qu'il y a plein de limitations. En fait, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les CMS, c'est chouette pour tester des choses, mais tu essayes de coller ce que tu cherches à tester. Par rapport à ce que l'outil te permet de faire. Et donc, il y a des choses qu'on peut tester dans la mesure du possible. Typiquement, aujourd'hui, on attendait énormément que Webflow mette à disposition un compte client avant fin, ils ne l'ont pas fait. Non. Et c'était un peu le truc sur lequel ils étaient super attendus. Ils ont fait une levée de fonds, 72 millions, pour grossir l'équipe dédiée au développement de l'équipe e-commerce. On attend toujours d'avoir la couleur. Les codes coupons.
Le sujet.
On leur demande toutes les semaines. Bref, il y a pas mal de choses sur lesquelles non, on peut pas tester. On veut faire des codes promo, que ce soit les codes promo en pourcentage ou les codes où en fait tu veux offrir les frais de livraison ou offrir un cadeau en plus. Dorian ruse. On essaye de travailler un peu ensemble intelligemment pour trouver une manière de même d'innover sur le business model. Là, pour le coup, la contrainte libère la créativité et c'est assez chouette.
Ouais. Alors donc du coup vous utilisez Webflow la partie e-commerce.
Ouais.
Donc classique. Donc vous n'avez pas de compte client. Ou est-ce que vous avez rajouté?
On n'a pas besoin de compte client. Non.
Les gens achètent, c'est du one shot et puis après l'expérience se poursuit par mail.
Absolument, ils reviennent. Et alors justement, ça c'est un peu le premier truc qui nous a poussé à essayer d'innover, c'est que problème de taux de TVA impossible à résoudre et problème aussi des emails qui s'envoyaient automatiquement ou alors qui ne s'envoyaient pas en fonction de squat de l'expérience utilisateur que tu désires délivrer au client. Du coup, premier échange avec Webflow, on s'aperçoit qu'ils ne vont pas nous aider. Je me souviens du premier mail où j'ai listé tous les choses. Et si on faisait un call pour en discuter tous ensemble, où j'ai pas vraiment eu de réponse. Et là, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler donc sur Airtable, sur Mailjet.
Et vous avez déporté beaucoup de la logique... on va dire commerce, quoi. Enfin, je sais pas, donc la gestion de la TVA, ça c'est pour les factures pour les clients, j'imagine.
Absolument.
Les Américains, ils sont
à l'État, alors qu'ici on est au produit.
Ouais, ok, ah oui, il y a différents types de TVA par produit, enfin des classes de TVA. Ouais.
Absolument.
Ça c'est pas implémenté dans Webflow.
Non, pas du tout. Ils sont sur TaxJar, qui est un truc US qui n'a aucune comparaison avec la France et sur lequel ils sont vraiment fermés à explorer les pistes et ça viendra en 2043.
Ouais. Ouais.
Et donc du coup là-dessus j'ai commencé un peu à voir à travailler Google Apps Script avec des factures en PDF qui seraient exportées puis les mettre un peu dans un fichier etc. C'était pas trop c'était pas trop faisable et automatisable et c'est comme ça que du coup j'ai entendu j'ai décidé d'avancer avec Thomas qui a fondé Essentiel.
Ouais. Et donc, il parlait de vous dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, donc je viens de l'apprendre.
Ouais.
Et donc, ça, c'est étonnant. Et donc, tu vas pouvoir un petit peu clarifier
cet exemple. Et
donc,
c'est super intéressant parce que.
Qu'il avait évoqué.
Ouais. C'est là où c'est vraiment, il a eu une valeur ajoutée assez incroyable, c'est que quand on retire les données de Webflow, l'API ne permet pas forcément d'avoir les champs tels qu'on désire les avoir. Et donc, il faut couper les choses. Et les mettre dans Airtable dans le format que tu souhaites. Donc même si déjà sur la préparation des commandes, on a un script en Python qui tournait, etc., qui nous permet de vraiment bien préparer les commandes, et le script de livraison qui est automatisé, sur toute la partie order management et gestion des stocks, il a fallu qu'on innove, et pour le coup, on a fait quelques séances ensemble, et sessions ensemble, et maintenant on est complètement autonome là-dessus, et je pense que c'est génial qu'ils puissent... former les gens et les accompagner pour qu'ils en retirent une vraie valeur ajoutée et ensuite être complètement indépendant et puis avoir recours à des outils comme Zapier que tu connais pas forcément initialement et
que
tu maîtrises complètement.
Que lui, il maîtrise extrêmement bien et il a même, comme il expliquait dans le podcast, et ça sort un petit peu du contexte juste du no-code, mais que lui, comme il est développeur, il peut aussi développer ses propres intégrations.
Ses propres briques.
Et non, je suppose que vous avez eu besoin, quoi.
Ouais, absolument. Ouais. Donc, ça, c'est parce qu'en fait, ce qui manque, même moi, je connaissais bien, ce qui manque, c'est les étapes de code entre les différents trucs, parce que parfois, ça connecte. Et même si parfois tu passes un peu de temps à essayer de compléter une doc qui n'est pas très explicite de la part de Stripe ou quoi, tu as besoin de compléter par des éléments. Et là, si je n'ai pas de problème de logique, la syntaxe, juste je passe des heures et tu ne comprends pas pourquoi tu pourrais optimiser ton temps à faire autre chose. Là que c'est très pertinent. C'est pour ça que je pense que c'est complètement compatible. Et complémentaire.
Okay. Alors et donc si on continue un petit peu dans la partie technique quoi de tout ça, donc au niveau de la logistique, vous avez du no-code encore ou enfin comment se passe un peu la chaîne
Non, parce que là pour le coup en effet c'est du Python qui nous permet de faire des PDF pour les données à l'établissement avec lequel on travaille. Qui ont des fiches et qui peuvent préparer les commandes avec des petites images pour chacun des produits, etc. Les quantités, donc mutualiser le nombre d'éléments par sac craft pour minimiser les déchets.
Et donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire en no-code, a priori. Enfin,
non,
vous avez pas trouvé de
ça,
de
c'est
solution.
Les copains, Internet et...
Okay.
et
bon. Donc du développement. On constate que du coup, tu as une architecture comme ça où tu as... du no-code, du code, des choses un peu entre les deux, du Zapier avec du code dedans, enfin, et voilà, c'est tout à fait...
Mais c'est robuste
et puis ça fait ce dont vous avez besoin.
Ouais.
Parce que alors juste, tu disais, ça génère un PDF avec des images, est-ce que ça c'est lié au fait que vous travaillez avec un ESAT
parce qu'il leur faut des papiers pour préparer les commandes. Ouais.
Peut-être d'ailleurs expliquer, si tu veux expliquer ce que c'est un ESAT.
Avec plaisir, moi j'ai découvert ça... Oui, ça nous tenait à cœur et on est très contents d'avoir fait ça. On travaille avec un établissement qui réinsère des personnes en situation de handicap par le travail. Et j'ai découvert ça en même temps qu'on développait l'intendance. Donc c'est des établissements qui sont nés après la Première Guerre mondiale pour réinsérer des personnes qui revenaient de la guerre. Et ça s'appelait au départ des établissements de dignité. Et maintenant, c'est des établissements, il y en a vraiment plein en France. Et c'est vraiment très... c'est un peu une claque de voir qu'on travaille aussi à réinsérer des personnes qui ont différents types de handicap.
Qui du coup ont un encadrement particulier.
Là où j'ai été complètement étonnée, c'est l'intelligence dont font preuve les personnes qui encadrent les travailleurs, qui redoublent d'imagination et qui ont une intelligence pratique des choses. Et qui, eux, je ne sais pas si ça s'appelle du no-code, mais c'est de l'intelligence de situation, de l'intelligence à l'état brut pour faire travailler des gens ensemble qui sont potentiellement aveugles, potentiellement malentendants.
Est-ce que vous, ça a impliqué du coup des choses de votre côté dans la manière de travailler avec eux ?
Oui, la formation. Quand on fait, c'est quand même relativement complexe de distinguer du trinoa, du quinoa trois couleurs et du quinoa simple ou différents types de biscuits ou les croquettes de chat et les croquettes de chat. Enfin, il a fallu faire des dessins, il a fallu un peu passer beaucoup de temps.
Organiser peut-être l'entrepôt, des choses comme ça. Ou ça, c'est peut-être pas du coup trop de votre ressort.
Noélie, mon associée, qui est donc CEO de la boîte, elle a passé énormément de temps à les faire monter en compétences, à co-travailler ensemble. Et puis en plus, on a travaillé avec un premier ESAT et quand on a grossi, on a déménagé. Du coup, on a connu deux fois plus de monde et il a fallu un peu tout refaire, mais on a réappris de nos choses. Entre-temps, on est passé par une cave que nous a prêté un copain. Et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment un moment où on a dû aussi revoir notre façon de gérer, de préparer les commandes le matin et qui nous a vraiment poussé à innover dans la manière où on allait lister toutes les choses dont on avait besoin, réordonner les choses. Enfin, en fait, c'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis que tu vois exactement tous les espaces d'amélioration possibles. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres limites ? En fait, la question un peu ultime pour finir un peu sur la partie technique, c'est est-ce que vous pensez transitionner vers plutôt une plateforme développée ? tôt ou tard, ou est-ce que vous pensez rester sur Webflow? Et donc, la question un peu intermédiaire, c'est là, quelles sont les limites? On a évoqué certaines, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent?
Bah, tu vois, on ne compte pas avoir de CTO, je pense.
Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé durant ma présentation, mais ça, c'est important de... Pas de personne de technique dans votre équipe, vous avez fait ce choix.
Ouais, je pense qu'on est assez autonome et qu'on peut le rester assez longtemps. Et après, je pense qu'à chaque fois qu'on s'aperçoit qu'un service devient trop coûteux en zap ou en tâche, on migre vers quelque chose d'un peu plus efficace.
Ouais, peut-être développer par exemple. Mais...
Probablement pas. Là, l'exemple, c'est Intercom qui commence à coûter trop cher. En fait, on va passer à Front.
D'accord.
Ou par exemple, pour le remboursement des consignes, on envoie des SMS. Aujourd'hui, je les envoie par MailJet.
J'essaie d'optimiser peut-être en trouvant un autre service qui soit un peu moins cher.
Qui est intégré typiquement à Airtable, Twilio, mais en fait, on découvre. Et donc, je pense pas qu'on ait besoin avant assez longtemps. On est passé au JT de TF1 aux 20h. Il y a quelques temps, je pensais que ça allait vraiment faire péter... ça aurait fait péter n'importe quel site développé. La chance qu'on a eue, c'est de prévenir une semaine avant Webflow et on n'a eu aucun problème. Enfin, à part le nombre de paniers, le nombre de chaînes de caractères, donc ça nous a fait mettre le doigt sur un bug où en fait, passer un certain nombre de caractères, donc, parce qu'on avait des paniers relativement longs. Donc on a remonté le bug, on était un peu triste.
C'était un bug chez Webflow.
Ah ouais, c'était un bug chez Webflow. Ah ouais, on a relevé pas mal de bugs chez Webflow.
Ok. Ça, par exemple, c'est intéressant.
Ah ouais, non, on est un peu des power users de la partie e-commerce de Webflow, vraiment.
Et c'est intéressant parce que du coup il y a un autre volet. Enfin, ce qui est pas cool, c'est que c'est vous qui avez trouvé les bugs, donc vous en avez souffert dans un sens.
Oui, mais par contre, ils nous ont offert 6 mois gratuits.
Ah ouais, ok, c'est intéressant parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as évité à plein d'autres gens d'avoir ce problème. Ça, c'est un des trucs un peu magiques du no-code, tu vois, enfin, du côté plateforme. C'est bon, vous avez essuyé les plâtres. Bon, je dis pas ça
non,
pour
non,
les
mais
défendre.
Oui,
hein,
non, mais en vrai, quand je leur écris, je leur dis, avez-vous eu connaissance de ça parce que ça pourrait intéresser d'autres gens.
Ouais. Mais si c'est un bug chez eux...
Ouais.
Ok, ah ouais, non, mais
non, mais il y a un autre bug, par exemple, de cookies. Enfin, finalement, il y a des ghost items quand tu effaces un produit qui n'existe plus parce que ça, c'est des DM est passé, que tu l'as remplacé ou quoi... qui fait que tous les paniers sont gelés. C'est des cookies qui sont propriétaires, que tu ne peux pas, effacer pour l'utilisateur.
Okay.
Et qui, littéralement, nous coûtent des ventes parce que tu es obligé de passer en navigation privée pour compléter la vente. Et donc, c'est pour ça qu'on a installé Intercom au départ. Et à 11h30, tu discutes avec une mamie et tu lui expliques ce que c'est que d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Et après, on a remonté le bug en effet Webflow. On attend toujours une réponse, mais entre-temps, on a trouvé donc une solution.
Oui, qui est une solution de contournement pour le coup, vous devez faire à la main. Quoi. Comme beaucoup de choses au début, des projets. Mais
là, il n'y a plus grand-chose qu'on fait à la mano.
Ok. Non, mais là, je voulais dire le truc avec Intercom, c'est ça la solution que tu parlais
ou
il y a une autre solution? Oui, d'accord.
Oui, c'était ça.
Mais
c'est-à-dire,
littéralement répondre aux gens.
Ça
fait partie des choses qui ne scalent pas, comme dirait Paul Graham. Mais c'est intéressant parce que tu as plusieurs exemples comme ça de choses que tu as dû faire, comme beaucoup de projets entrepreneuriaux. Mais c'est super, j'ai l'impression que là, on a un bel éventail de plein de choses.
Genre les autres, là, c'est pas pertinent de les raconter, mais bon, c'est... Mais en fait, je trouve ça dommage parce que c'est des outils comme ça qui sont super chouettes et tu aimerais pouvoir, comme un SaaS, pouvoir discuter avec une équipe. Mais bon, après, c'est comme ils font face à un nombre de requêtes incommensurables, ils passent par un forum et du coup, on essaie d'être partie prenante aux discussions. Et voilà.
Ouais. Mais donc, tu dirais quand même que le support, vous n'avez pas toujours été... hyper satisfait du support de Webflow.
Non, ils sont réactifs, parfois ils lisent pas les mails, mais ils sont réactifs pour dire salut.
Non, mais c'est intéressant parce que vous, ça fait combien de temps juste pour,
Ça fait 6 mois.
D'accord, oui, donc ça correspond à peu près à leur levée de fonds.
Ouais.
Et tu vois, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais, comme ils viennent de lever des fonds, ils devraient pouvoir délivrer plus vite.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression que ce qui leur arrive, c'est qu'ils sont justement dans cette phase de structuration où en fait, ils sont en train de... Il y a de l'inertie. En fait, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu dans pas mal de communautés. En ce moment, ils délivrent moins, quoi. Ça fait plusieurs mois qu'ils délivrent moins. Et donc, les gens... Je pense que les gens font un raccourci un peu tricky entre le côté ils viennent d'avoir beaucoup d'argent et ça ils devraient délivrer plus alors qu'en réalité
ils sont en train de recruter, former.
Donc ça paraît logique mais c'est frustrant, je comprends cette frustration. Nous on a aussi fait un site de e-commerce récemment et on a nous pour le coup on n'a même pas pu utiliser la partie e-commerce en fait de Webflow et on a utilisé Stripe en direct avec un petit peu de code. Pourquoi? parce qu'on peut pas customiser le checkout et que nous notre client voulait que au moment du checkout c'était dans le tunnel d'achat, en gros, la personne puisse mettre sa date de naissance, sa ville de naissance.
Oui. Ah ben là, il faut, pareil, il faut utiliser des champs, les renommer, enfin, ou je sais pas, je sais pas quel est posé ce problème. Mais...
Bah nous, du coup, voilà, on a fait un petit peu ça à la main, enfin, un formulaire qui poste direct à Stripe, etc. Mais ça nous, du coup, on peut pas utiliser le panier, par exemple. Il n'y a pas de panier. Donc, mais bon, ça.
Mais du coup, vous avez utilisé le panier de Shopify?
Non, il n'y a pas de panier. Tu t'achètes que des trucs un par un.
D'accord.
Donc c'est une limitation. Au stade où en est le projet, c'est pas très grave pour notre client puisque eux ils testent encore déjà de savoir si les gens veulent ne serait-ce qu'acheter un item. Mais voilà, là mais c'est pas grave parce qu'on trouve d'autres solutions au fur et à mesure. Il y a des choses qui se débloquent. C'est intéressant ces outils aussi, ils évoluent. C'est ça.
Et donc là, tu vois, là la limite, elle a fait que tu as vraiment eu un impact sur ta stratégie de développement de ton site.
Ouais. Sur la stratégie commerciale.
Ouais, sur les... ouais. Et donc, parfois, vraiment, les limites du code, si tu t'en tiens au no-code, c'est de tester différemment l'idée que tu avais initialement. Et ça peut être aussi...
Ouais, un peu. Mais du coup, là, nos clients sont au stade où, justement, ils se posent la question de faire développer le site dans une plateforme type Magento ou un truc comme ça. Mais ce qui est sûr, nous, on est convaincus, c'est qu'on leur a permis de tester beaucoup plus vite, en fait. C'est-à-dire que le site sur Céleste, on l'a fait en quelques semaines, même pas, en quelques jours quasiment, quoi. Et donc, ils ont pu commencer à vendre beaucoup plus tôt que s'ils avaient fait développer sa plateforme, et à moindre coût. Et donc, parce qu'ils se posent aussi la question, peut-être, d'arrêter complètement le projet, s'ils n'en vendent pas assez. Donc, c'est intéressant, tu vois, c'est le no-code, il permet d'aller vite. Il contraint, bon, comme tu dis, il influe aussi un peu sur le... comment tu vas tester tes hypothèses et tout, mais moi je trouve que la démarche, en tout cas moi j'aime bien la démarche quoi, c'est-à-dire de commencer peut-être par des choses plus contraintes, mais qui permettent de valider des choses quoi.
Non mais c'est clair, parce que sinon après tu te retrouves avec des trucs complètement multifactoriels et tu sais pas à quelle cause, à quel résultat, donc au moins c'est un peu le rasoir d'Occam qui te permet de tester un truc par un.
Ouais, tout à fait. Super, bah écoute, tout ça a été hyper intéressant. Pour terminer, quelques petites questions un peu plus générales. Est-ce que tu as envie de donner quelques conseils peut-être à des gens qui se lancent dans une aventure entrepreneuriale, un petit peu sur la base? Alors, il y avait plein de conseils déjà dans ce que tu as donné finalement de ton expérience.
Bah, je sais pas si je me sentirais légitime à donner des conseils, mais vraiment tester, parce que c'est un apprentissage de tous les jours et c'est incroyable en richesse de rencontres, de découvrir ce dont on est capable. C'est d'essayer quoi.
Alors, dernière question qu'on pose à tous nos invités, qui est si donc tu avais hypothétiquement un side project, tu ferais en dehors, dans le peu de temps que tu as la nuit, je pense que en dehors de l'intendance, qu'est-ce que ça serait et comment tu le ferais en no-code?
Ouais, je pense que si c'était un projet no-code à développer sur le côté, j'essaierais de faire un peu un simili Airbnb pour louer des espaces de travail dans la journée sur les espaces qui sont vides à la journée. Parce que finalement, c'est un peu la contrainte numéro un aussi d'un entrepreneur, c'est de trouver de l'espace de travail concentré avec une prise et du wifi. Et c'est une chance incroyable de pouvoir avoir des incubateurs, mais pour la plupart des gens qui veulent juste ne pas être chez eux et essayer de tester, c'est fondamental. Et voilà, donc de faire un simili-like de Airbnb, mais pour les freelances.
Ok, bah écoute, on va conclure. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, en fait, que je voulais dire au début, puis j'ai oublié, donc je vais dire à la fin, c'est pas grave. C'est qu'on est, donc on est à Station F. Et que je trouve que c'est vraiment ton aventure, tout ce que tu nous as raconté, fait vraiment une belle suite à l'épisode que j'avais fait avec Guillaume ici, Guillaume Declerc de Loom, où c'était un petit peu cette même configuration. Je trouve que c'est assez proche, fait penser à ça, où vraiment se lancer dans un projet de commerce, enfin e-commerce en ligne, sans CTO, et trouver des solutions avec des outils no-code, avec cette approche. Et voilà, et en plus, vous avez tous les deux vraiment cette vocation, ce souci environnemental, j'ai envie de dire, qui me touche aussi beaucoup, comme beaucoup de gens. Et je suis devenu client de Loom après d'ailleurs l'enregistrement, donc je pense que je deviendrai aussi client de l'intendance.
Ah bah super, bah oui, il faudrait que tu testes.
J'ai commencé j'ai même fait un petit panier, je crois, quand j'ai regardé avant de...
Pour tester Webflow en fait.
Ouais, exactement. Et donc je pense que je vais valider ça. Non, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce projet. Et je pense que...
Bah merci beaucoup Alexis.
Donc félicitations, et puis tiens-nous au courant, et on va suivre ça avec attention.
Avec grand plaisir.
Et alors, oui, dernière chose, est-ce que si pour les gens qui veulent te contacter ou te suivre, suivre le projet aussi, est-ce que sur les réseaux sociaux, tout ça c'est...
Ben, l'intendance.co et Mériamette, l'intendance.co.
Ok, parfait. Simple et efficace. Cool. Bon, merci.
Merci beaucoup.
Salut.